Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très honoré d'avoir l'occasion de pouvoir m'exprimer devant vous ce soir, l'occasion de cette convention, de l'Alliance, ce congrès. Merci d'ailleurs aux organisateurs de me donner aussi cette opportunité de porter la parole de Dieu, de la porter devant vous, tout un parterre de pasteurs qui sont ici. Et je me sens un petit peu comme notre frère hier, Mark Nelson, un peu intimidé et très honoré. Alors je vous invite simplement à juste vous incliner dans la prière avant d'aller plus loin. Notre Dieu, notre Père, nous nous plaçons encore sous ton regard ce soir. Te remercions de tes lumières que tu aimes à dispenser à nos esprits pour que nous connaissions la vérité en toutes choses et que nous ne nous laissions jamais séduire par nous-mêmes, Seigneur. Combien je te rends grâce de ce que tu nous as donné, ta parole, la Bible, ce livre inaltérable, indestructible, ce livre qui est notre référence, notre boussole, notre repère, notre ancre, pour notre âme, notre vie, et en particulier ce soir pour nos foyers, nos familles. Seigneur, je te prie encore de permettre que ta parole puisse être affûtée dans ma bouche et qu'elle puisse atteindre les cœurs et qu'elle nous donne toujours plus de discernement pour marcher dans tes voies. Ô Seigneur, merci de bien vouloir faire cela. Nous te le prions par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la famille... Face à la crise, j'ai retenu comme verset d'introduction ce verset du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 21, qui dit ceci: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il y a quelques années de cela, nous avions fait un prospectus à trois, avec un prospectus, oui, une affiche à trois, avec ce verset et sur un papier orange fluorescent, et nous l'avions collé au cœur même de la ville de Lille, à l'angle de la rue de Béthune, la rue Neuve, et c'était en hauteur, et des milliers, sinon des millions de gens ont vu cette affiche, et voilà, c'était « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». C'est merveilleux. C'est merveilleux ce verset, et j'aimerais en parler. La chose, c'est que tout semble très simple, et pourtant il faudra s'arrêter sur ce que finalement veut dire le verbe « croire », puisqu'il est la solution à bien des maux. Alors, pour parler de ça ce soir, eh bien, j'aimerais rappeler que le domaine de la vie qui est le plus important aux yeux de tous les Européens et de tous les gens de la Terre, eh bien, c'est la famille. Il y a un sondage qui a été fait en 2003 par l'INSEE et qui vraiment montrait que la famille était considérée comme la chose la plus importante, eh bien, par les Européens. C'est une bonne chose, mais est-ce que ça se traduit par vraiment une volonté de réussir dans son foyer ? Là, c'est autre chose. La famille, vous savez, c'est le cadre dans lequel s'inscrit notre vie et notre mort. C'est le lieu de la socialisation par excellence. C'est là que l'on construit son identité, qu'on se forge des points d'ancrage, de repères les plus importants de la vie. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dieu a établi la famille, et je dirais que quand la famille va, eh bien tout va. Mais quand la famille ne va pas, rien ne va. Rien ne va. Et donc, c'est pas peu de choses que de réfléchir à la famille. On peut la mettre en accusation, la famille. Pourquoi ? Parce que elle est responsable de la réussite et des échecs de ses enfants. Et elle y est vraiment pour une très, très grande part. Donc, il faut réfléchir à cela. Quand on parle dans le sujet « la famille face à la crise », j'ai retenu les deux mots « famille, crise ». Quand j'ai préparé et travaillé à ce message, je n'arrivais pas bien à saisir la direction que je devais prendre. Et je me suis rendu compte qu'il y a deux types de crises. Il y a la crise qui est extérieure, celle que vous affrontez contre votre famille. Et puis il y a la crise intérieure. Dernièrement, au journal de 20h, Eh bien, j'ai appris ceci, c'est que la crise financière fait diminuer le nombre de divorces. C'est bien la crise financière, finalement. Non, c'est pas mal. Ben oui, les gens n'ont plus suffisamment d'argent pour payer le divorce. Authentique, hein. Alors, monsieur couche dans le salon, madame, voilà, on s'arrange comme ça, et ça fait diminuer les divorces. Alors, finalement, la crise, ça peut avoir du bon. Tenez, des études un peu sociologiques ont été faites sur le comportement des Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, s'il y a une chose qui se portait bien chez les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la famille. Oui, pourquoi ? Parce que l'agression était à l'extérieur. Et du coup, quand elle est à l'extérieur, bien à l'intérieur, on se barricade, on se stimule, on se motive, on se comprend, on s'aide et on fait bloc. Et c'est très bon de parfois une crise qui nous vient de front. Alors, je paraphraserai un premier ministre français qui s'appelait Pierre Messmer, à qui l'on demandait s'il ne craignait pas la crise. Il avait dit ceci: non seulement je ne la crains pas, mais j'appelle la crise de tous mes voeux, car c'est dans la crise que la France se réforme pour le mieux. Et parfois, bien, la crise est utile pour réformer nos vies. Et je dois dire que même le témoignage de ma famille, c'est le témoignage d'une crise qui a bien tourné. Et je dirais une crise qui nous a fait déboucher sur le salut. Alors, ceci étant, quand on parle de crise, on se dit, est-ce que c'est un phénomène qui est d'actualité plus qu'à d'autres moments? En fait, on se rend compte que tout le temps, de tout le temps, la famille a été un enjeu de premier ordre, un enjeu spirituel. Les puissances des ténèbres ont toujours cherché à attaquer de front, de travers, de tous les côtés, la famille. Alors, elle a toujours été, si vous voulez, un petit peu en crise, parce que c'est le lieu où se vit, se connaît, se développe la connaissance de Dieu, pas simplement en théorie, mais se vit, je dirais, la connaissance de Dieu. Alors, pour parler d'une famille en crise, eh bien, j'ai pensé à une famille dans les Écritures qui peut être un peu caractéristique de notre temps. C'est la famille de Lot. La famille de Lot, c'est, à mon sens, une famille de type évangélique qui est en crise et qui traverse une très grave crise. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est un petit peu de mettre en avant les maux qu'elle traverse pour, si vous voulez bien, appliquer quelques remèdes à tous ces maux. Alors, la famille de Lot, eh bien, c'est quatre choses que j'ai retenues. On pourrait dire bien d'autres choses, rendre le problème autrement. J'ai noté que c'était une famille qui n'avait pas d'ambition spirituelle. Et c'est là un mal profond. Verra que c'est une famille sous influence et qui est embarquée dans le train de ce monde. On verra que c'est une famille sans vigueur et enfin une famille sans transmission. Quatre choses que j'aimerais évoquer devant vous. Une famille sans ambition spirituelle. Vous savez, on peut ne pas avoir d'ambition spirituelle. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, mais c'est qu'on n'a pas de bonnes ambitions. Alors, reprenez avec moi votre Bible et vous pouvez regarder dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, un verset qui plante un peu le décor de cette famille. Chapitre 13, verset 10. C'est le moment où Abraham et Lot se séparent et tout d'un coup on voit cet homme qui fait son choix, j'allais dire personnel, familial, pour conduire sa famille. Et il est écrit: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors ici, nous allons parler d'une famille sans ambition spirituelle, mais pas sans ambition. On voit que, premièrement, cette famille est gouvernée par le monde des choses qu'elle voit. Elle est gouvernée, elle se décide en fonction des aléas, j'allais dire, qui la séduisent, qui la tentent. Et c'est déjà ici, au travers de la vie de Lot, la fascination du monde des images que nous avons ici. Tout ce qui est à voir et qui est fascinant, eh bien, l'attire et la détourne du dessein de Dieu. En Genèse, au chapitre 19, un petit peu plus loin, il est question de Lot encore, et deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Vous avez vu, tout à l'heure, il avait planté ses tentes à l'entrée, maintenant il est dedans, et quand il est dedans, il n'est pas dans un transat à la porte, il est en fait, cette expression évoque le fait que, eh bien, il occupait des responsabilités dans cette cité de Sodome. Il en était un des administrateurs. Il y avait là donc pour lui une réussite professionnelle évidente. Donc une ambition, eh bien, qui avait trouvé un aboutissement. Madame Lot, de son côté, eh bien, pour en parler, finalement, ce n'est pas dans la Genèse qu'on en parle le mieux, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et au verset 32. Il est écrit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Et juste après, il est écrit « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera ». Et on voit que le comportement de la femme de Lot est très évocateur. Elle a été transformée comme cela en un instant en une statue de sel, parce qu'en fait son cœur était uniquement attaché, eh bien, sur les choses de ce monde plutôt que sur les choses de Dieu. C'est ainsi que toute cette famille était obnubilée par une réussite dans ce monde. Et elle était prête finalement à tout sacrifier pour cela. Vous avez vu dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure, tout de suite, dès que Lot se présente aux portes de Sodome, Dieu tout de suite a précisé que les gens de la ville étaient méchants à tous égards. Et on voit que bien dans ce foyer, on est prêt à sacrifier bien des choses pour réussir dans ce monde. Alors, réussir dans ce monde, qu'est-ce que ça veut dire pour Lot et sa femme ? Eh bien, c'est réussir en dehors de son foyer. C'est-à-dire que, et ça c'est très très important, c'est que le foyer ne fait pas partie des ambitions à réussir. On va réussir à l'extérieur. Mais le foyer, la famille, les enfants, la construction d'une famille est abandonnée. Et cet appétit pour une réussite en dehors du foyer, bien, c'est le culte de l'individu. Quelqu'un a parlé de cela, on parle, vous savez, beaucoup d'écologie. En ce moment, quelqu'un a dit, aujourd'hui, ce n'est pas l'écologie, c'est l'égologie. Hein? Et on est dans l'égologie la plus totale. Hein? C'est ça, c'est moi, ma réussite à moi. Et alors que, finalement, la famille, c'est une réussite collective, c'est notre réussite, c'est notre ambition. Et finalement, chacun a une ambition, c'est de réussir à l'extérieur, mais n'a pas l'ambition de réussir à l'intérieur. Alors la crainte de l'Éternel n'est plus là. On pourrait dire que la devise de cette famille, c'est « Seigneur, bénis ce que je veux faire. Seigneur, bénis mes affaires. » Et vous savez que beaucoup de familles traversent bien des mots, tout simplement parce que c'est le seul leitmotiv qu'elles ont. Et si Dieu est là dans leur vie, il doit être simplement le garant ou le cautionneur de leur réussite dans ce monde, c'est tout. Et ça, c'est très grave comme conception de la vie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et vous savez, vous retrouvez dans la deuxième épître de Pierre toute la vie de Lot qui était tourmenté journellement. Et pourquoi ? Parce qu'il vivait au milieu des insensés. Mais qu'allait-il faire dans cette galère ? Il aurait pu s'en affranchir. Mais son cœur était attaché aux choses de ce monde. Et c'était là le drame de sa vie. Donc si vous voulez, le contexte idéal pour avoir une famille en crise, eh bien, c'est de n'être attaché qu'aux choses de ce monde. D'avoir une volonté, c'est de réussir à l'extérieur de son foyer sans penser à la réussite même de son foyer. Alors, par opposition, et si on peut citer d'autres personnages qui ont eu un autre témoignage, là, on pourrait penser à Noé. Noé, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 7, il est écrit « Noé construisit une arche pour sauver sa famille. » C'est fort, ça, hein, ce verset. Son ambition, c'était de sauver sa famille. Il a construit une arche. Le mot « construire », c'est l'idée d'équiper, préparer, établir. Il y a quelque chose de très fort. C'est vraiment une grosse entreprise. Sa famille, la réussite de sa famille était vraiment une ambition spirituelle. Et Noé avait déjà même pris à son compte, si vous voulez, la devise de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous savez, construire une arche, pour lui, Noé, ça a dû être plusieurs choses. Il a fallu qu'il explique à sa famille. Il a fallu qu'il montre par sa vie. Il a fallu qu'il applique, implique, stimule, corrige, enseigne. C'est-à-dire que c'était un travail de longue haleine et il a dû tout apprendre à ses enfants pour participer à la construction de cette arche. Et ayant donné dernièrement un message sur l'arche de Noé comme type de Christ, j'ai été très surpris de voir, vous savez, dans l'hébreu que l'idée de enduire de poids, hein, c'est en grec, ça veut dire, ce sont les mêmes termes qui sont employés pour dire expier par une rançon. C'est fort, hein, enduire de poids. Hein, c'est le verbe expier qui est employé ici. Et vraiment, quand on dépeint toute cette arche, eh bien, ce refuge, c'est Christ. Et donc, construire une arche, c'était construire un foyer autour. Ça doit être vraiment construire un foyer autour de la personne de Jésus-Christ. Donc l'idée est vraiment de construire, mais construire, on pourrait penser que c'est simplement faire. Or construire, c'est communier, c'est être. Et il y a un deuxième personnage que j'aimerais passer devant vos cœurs, c'est Abraham avec son fils. Il n'a pas tellement construit, si on peut parler, mais il a construit une communion. Et vous savez, quand on lit Genèse chapitre 22 et qu'on voit Abraham qui se rend à Morija et on parle de sa communion avec Dieu, mais vous pouvez imaginer que cet événement, ce n'est pas un événement, j'allais dire, périphérique, ô combien important, mais périphérique dans la vie d'Abraham. Si vous voulez, c'est un sommet de la communion entre un homme et son fils. Vous savez, c'est vraiment un moment où on voit toute la construction à l'intérieur d'un foyer que cet événement. Un homme qui va sacrifier son fils et un fils qui comprend son père. Et on ne peut pas le comprendre du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a des kilomètres de communion. Il y a un fils ici qui ne doute pas de son père. et qui ne doute pas de son Dieu. Ici, un fils qui ne doute pas de l'amour de son père pour lui et du bien fondé de son attitude. Il n'y a pas de trace de révolte, de réaction brutale. Mais t'es fou, quoi ? Mais t'es pas bien ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais attends, pas bien, mon père. Mais c'est comme on aurait tendance à vouloir présenter comme étant une chose normale aujourd'hui. Ben non, il y a quelque chose de profond ici, une communion entretenue. L'autre jour, c'est ma femme qui m'a encouragé à regarder sur Internet une vidéo que je vous encourage à voir et qui m'a vraiment fortement touché. Vous connaissez peut-être, c'est cette vidéo de, je crois que ça s'appelle Iron Man, l'histoire d'un père avec son fils qui fait le triathlon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Ouf, c'est bouleversant. Un fils qui est né... voilà, comme un fils légume, quoi, voilà, mais avec un cerveau, malgré tout, hein, mais des membres inertes, voilà. Et la société lui a dit, ouais, débarrassez-vous de votre fils, de toute façon, vous ne pourrez rien en faire, quoi. Et lui, au contraire, a voulu faire construire quelque chose. C'est bouleversant, chers amis, c'est bouleversant. Cet homme va endurer... Le triathlon le plus difficile du monde, hein, c'est-à-dire 3 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied avec son fils, avec lui. Son fils qui ne peut pas bouger. Il va prendre un bateau et il va nager. Et son fils, il va le traîner sur un bateau. Il va monter sur un vélo et devant, il y a une espèce de porte-bagages et il va mettre son fils devant et il va faire ses 180 km et il va prendre un fauteuil roulant et il va faire ses 40, son marathon avec son fils. C'est prodigieux, chers amis. Et à chaque fois, son fils arrive avant lui. Et on voit qu'il communie. Il y a la volonté de construire. Alors on se dit... Ouais, mais moi, mon fils, ceci. On est toujours, on pense toujours qu'il y a des impossibilités autour de nous, mais quand on voit ça, eh bien, on ne peut qu'être encouragé à investir dans son foyer, à construire une relation avec sa famille. Un père qui avait des problèmes avec son fils s'en est ouvert à son pasteur. Son pasteur a discuté avec lui, a tâché de faire le tour du problème, ne voyait pas de solution et finalement il lui a dit « Mais au fait, est-ce que tu as déjà prié avec ton fils ?»« Bah, à table, quoi, oui. »« Non, mais prier, passer du temps dans la prière avec ton fils ?»« Non. Bah, écoute, tu vas faire ça. » Mais il a fait ça. Il a construit quelque chose avec son fils et la vie. A été transformé. Vous savez, c'est là que se gagnent les plus grandes victoires. Alors on apprend ici que lorsqu'on est animé d'une réelle ambition pour le Seigneur, on peut sauver sa famille. On peut sauver sa famille. Et je vous laisse avec cette question, mais qu'en est-il de nous, dans notre foyer ? Est-ce que notre ambition est à l'extérieur ? Et souvent je me pose la question pour moi-même, comme pasteur, c'est que je peux être préoccupé à l'extérieur et voilà. Intérieur. Il ne faut pas laisser, j'allais dire, un cheval de Troie s'installer qui pourrait ruiner ce que Dieu veut construire avec les siens. Alors, deuxième remarque, donc, premièrement, une famille sans ambition spirituelle, un des grands mots. Maintenant, une famille sous influence. Bien, maintenant, j'aimerais que nous regardions cette famille un petit peu prise sous le tumulte du monde dans lequel elle vit. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 14. Dans Genèse chapitre 14 et au verset 11, il est écrit, c'est ici le récit de la bataille de Kadorlaomer, une espèce de grosse guerre dans laquelle a été mêlé Lot. Il est écrit, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et donc, on voit qu'ici, notre cher Lot est complètement happé par le tumulte du monde dans lequel il vit. Cette ville est dépouillée, et bien lui aussi, il est dépouillé avec la ville. Il est enlevé avec ses habitants, il est prisonnier comme les autres. Et en fait, rien ne distingue cette famille des autres familles. Il est ici dans un vrai pétrin, et il faudra toute l'énergie d'un Abraham pour pouvoir l'affranchir de son malheur. Et quand je lis ça, je vais vous dire une chose. Ça, c'est le travail d'un pasteur. Souvent, il faut aller aider des frères qui se mettent dans le pétrin parce qu'ils veulent vivre en dehors des voies de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Et on est tâché de les faire revenir dans les voies du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Ils y retournent. Et voilà. Parce que une fois qu'il en est affranchi, il y revient. Et donc, il est vraiment pris dans ce... J'ai noté dans mes notes cette phrase que j'avais appris en faisant en français les fourberies de Scapin. Mais qu'allait-il donc faire dans cette galère? C'est pas possible. Beaucoup de gens se laissent happer comme cela par le tumulte de ce monde. Alors, parlons un peu de l'influence de ce monde et même de ces manœuvres insidieuses dont nous pouvons être facilement le jouet dans nos foyers sans même nous en rendre compte. Une chose est sûre, c'est que quand on observe notre monde aujourd'hui, il ne faut pas être un grand observateur pour se rendre compte qu'il est en plein changement, en changement perpétuel. Et ce qui, justement, nous amène à parler de crise, c'est que demain ne sera pas comme aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est déjà pas comme hier, et on ne sait pas vers où ça nous mène, ou tout au moins, si on le sait. Mais ça ne nous mène pas forcément dans le repos et la sécurité. Alors, j'aimerais faire quelques petites remarques sur l'évolution de la famille au cours de notre XXe siècle. Et ces évolutions ont fait que même les églises évangéliques et leurs familles ont été happées dans tout cela. Et on ne s'en est pas rendu compte. C'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça. On suit le train de ce monde. Des analystes du comportement ont fait remarquer à quel point le développement économique de ce dernier siècle est en partie responsable du bouleversement de la famille. Savoir que finalement, notre bénédiction est devenue notre malédiction. Un frère est venu prêcher une fois dans notre église, il nous a dit « Vous n'imaginez pas à quel point le chauffage central a fait du mal à la famille. » parce qu'il n'y avait pas le chauffage central, il y avait là une cheminée. Et le foyer se retrouvait dans la pièce principale, et là, on était là, et finalement, dans la même pièce, on était obligé de s'entendre. Et puis, quand on punissait un enfant, on lui disait « Que tu montes dans ta chambre. » Aujourd'hui, il n'attend que ça. Ah ouais, super! J'ai la télé, j'ai la console. Console, c'est le nouveau Saint-Esprit. C'est ça, ils accompagnent tout le temps. Bon. Et alors, mais autrefois, aller dans sa chambre, il faisait froid. Et donc, parfois, on se rend compte que des choses anodines, finalement, ont transformé nos comportements familiaux. Tenez, avant la Deuxième Guerre mondiale, le mariage était une institution très stable en Occident, incontournable, garante de l'ordre et de l'identité. Ce mariage était, il faut le rappeler, un mariage de raison. C'est-à-dire que on mettait de la raison dans l'amour conjugal. Et cette raison venait du fait que c'était les pères qui mariaient leurs enfants. Sont plus raisonnables que leurs enfants, du reste. Cependant, le développement de la société industrielle a changé les choses et il a permis l'avènement du salariat. Et avec le salariat, je vais être tringard, mais je vais vous le dire quand même, l'autonomie de la femme. Et oui. Alors, voilà, une jeune fille qui habite à Ploucastel, dans le petit coin, et qui travaille dans la ferme familiale, eh bien, il y a une petite crise rurale, et elle se rend à la ville, et là, elle va travailler dans une filature, et là, dans la filature, eh bien, elle va recevoir un salaire. Et comme elle a son salaire, eh bien, elle est indépendante. Et comme elle est indépendante, elle fait ses choix toute seule. Eh bien, figurez-vous que ça, tous les analystes le disent, ça a été le commencement du mariage d'amour. Et alors, le mariage d'amour, eh bien, est une vraie catastrophe. Parce que, attention, retenez votre souffle, hein. Je le dis, hein. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée, c'est du tout sentiment. Voilà. Attention, c'est pas l'amour agapé, forcément, même s'il peut y avoir de très bons sentiments. Mais voyez-vous, le mariage d'amour a donné naissance au divorce. Ben oui, parce que j'aime, j'épouse, j'aime plus, je divorce. Tout sentiment. Ça a développé la sacralisation de l'enfant. Alors, il y a des gens qui sont penchés sur les primes d'assurance que l'on donnait juste après la guerre quand on perdait un enfant, et puis celles que l'on reçoit aujourd'hui quand on perd un enfant dans un préjudice quelconque. Alors, après la guerre ou je ne sais trop quoi, ça tournait à 100 francs, et maintenant ça peut se chiffrer en millions d'euros. Alors, vous dites, bah, c'est normal, c'est mon enfant, c'est toute ma raison de vivre et tout cela. Oui, mais regardez, sacralisation de l'enfant, mais aussi avortement. Ah ben, c'est-à-dire que j'en veux, je l'ai, j'en veux pas, j'en ai plus. Tout sentiment. Et d'ailleurs, très intéressant, il y a, c'est des gens qui travaillent un petit peu dans ces domaines, qui font remarquer qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vont demander des FIV, hein, fécondation in vitro, les personnes, les femmes, je pense. Et parce qu'elles ne peuvent plus avoir d'enfants du fait des nombreux avortements qu'elles ont fait avant. Vous voyez la chose ? Avant, j'en voulais plus, mais je pouvais en avoir. Maintenant, j'en veux, et je ne peux plus en avoir. Donc, si vous voulez, tout ça crée un désordre. Et quand je dis ça, l'idée, c'est, comprenez bien, ce n'est pas de jeter un anathème sur la femme, mais l'homme est complice dans toutes ces choses-là. Hein. Mais si vous voulez, l'évolution de la société se mesure... si vous voulez, de la famille, pardon, à la place, beaucoup de la femme, dans la société, hein, et les considérations à cet égard. On est loin de l'Angélus de Millet, très loin. On est loin de la famille Ingalls, dans la petite maison de la prairie. Oh, regardez ça. Ça, c'était la famille dite traditionnelle. Vous savez, quand on parle de la crise, si on parle de cela ce soir, c'est parce qu'on fait référence à la famille Ingalls, en réalité. C'est ça, non, hein, c'est... Mais c'est sûr. Mais je vais vous dire une chose. Vous n'en voudriez pas de la famille Ingalls. Très certainement. Parce que la société a façonné nos modes de pensée pour que finalement, on aime la famille Ingalls simplement derrière le petit écran. Mais on ne voudrait pas la vivre. Donc, la famille traditionnelle a laissé place à la famille moderne, et la famille moderne à la famille postmoderne. On va voir ce que ça veut dire, tout cela. Mais, vous remarquerez une chose, c'est qu'il est très très difficile aujourd'hui, dans la société, de parler du statut de la femme. Parce que, justement, eh bien, il se place, et je le dis très honnêtement, il se place au cœur, eh bien, du délitement de la famille. Regardez un texte que vous n'avez peut-être pas tellement mesuré, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 36 à 38. Qu'est-il écrit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? 7, 36. Oui, c'est ça. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Ce passage, qu'est-ce qu'il fait là? Je vous pose la question. Où en est-on? Quelle est la jeune fille aujourd'hui qui voit son père, au fait? Ah, t'es marié? Oui, c'est déjà fait. Donc, si vous voulez, on est très loin, finalement, dans tout ce décalage-là, on est très loin, finalement, des relations familiales qui établissaient le mariage et le développement du foyer. Très, très loin. Il y a encore pas si longtemps, les couples se formaient autour d'un but, fonder une famille. On se voyait d'emblée comme parents et en second lieu comme conjoints. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On se choisit par affinité sexuelle. On dit, tiens, il me plaît, il est beau, il est marrant. Au lieu de dire quelque chose de plus sage. Oh oui, il fera un bon père. C'est un homme responsable et dévoué. Bien qu'il ne soit pas aussi beau que j'aimerais qu'il soit. Ah ouais, c'est pas James Bond. Un grand-père m'avouait avoir choisi la mère de ses enfants avec les critères suivants. Ah, c'est une femme propre, dévouée et travailleuse. Sa beauté venait après. Et on apprenait à s'aimer, à agaper. Proverbe 31:30 dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Alors voilà. Alors comme on vit au rythme du tout sentiment, bien nous débouchons sur d'autres comportements tout autant déstructurants. Ceux de la famille post-mortem, mais c'est post-moderne. Écoutez ces remarques. Moi, j'aime autrement. C'est-à-dire, je suis homosexuel. Comme tous tes sentiments. On prend un partenaire du même sexe. Ou alors, autre remarque. Mais on n'a pas besoin de se marier pour s'aimer. Tous tes sentiments. Et avec cela, vous avez, si vous voulez, la société d'aujourd'hui, dite postmoderne, c'est ça. C'est-à-dire qui est complètement déstructurée. C'est-à-dire qu'on met n'importe qui avec n'importe quoi. C'est vraiment cela. Et pour une forme qui ne ressemble nullement à ce que le Seigneur a prévu pour l'homme. Notez d'ailleurs que finalement ce constat ici postmoderne, c'est la situation dans laquelle Lot et sa famille vivent. À Sodome. Alors voilà, quand on dit cela, finalement, bon, ça peut être un gars, mais malgré tout, c'est le monde dans lequel on vit. Et on est emporté par ce flot, et le problème, c'est qu'on se laisse séduire par toutes ces considérations qui nous éloignent du modèle divin, de la parole de Dieu. Et qui, finalement, vont nous empêcher, parce qu'on a une mauvaise référence, vont nous empêcher de nous construire dans la famille. Tout est centré sur le plaisir. Vous avez déjà entendu ce coup de téléphone qui vient à midi et qui vous dit « Oh, monsieur Morel, vous avez gagné un caméscope et votre femme a gagné un plateau de fromage. Ça vous fait plaisir ?» Ça vous fait plaisir ? Non. J'en ai déjà un. Mais c'est-à-dire que c'est que centré sur le plaisir, l'attachement des choses de ce monde, et comme si c'était la seule raison de notre développement. Alors la chose, c'est que ça ne va pas aller en s'arrangeant, il faut le savoir. Le monde de Sodome, vous savez, il est là tout autour de nous. Tenez, en 2008, il y a eu un cap, une ligne, une fracture qui s'est faite dans le monde. C'est que plus de 50% de la population mondiale est maintenant urbaine. Et non plus rural. Rendez-vous compte, depuis Adam, le monde était davantage rural qu'urbain. bien, depuis 2008, bien, c'est le contraire. Et vous savez, c'est dans l'esprit de la ville que de développer des pensées qui sont complètement en dehors de la volonté de Dieu. C'est l'esprit de Babel. Dans Apocalypse, chapitre 16, verset 19, il est écrit « Les villes des nations tombèrent ». Hein, c'est ce qui va se passer. Dieu va juger les villes des nations. Pourquoi ? Parce qu'elles seront toutes des Sodomes. Relisez, si vous avez le temps pour cela, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ben, en 1931, cet homme fait un descriptif du monde vers lequel on tend, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de mariage, les femmes ne portent pas d'enfants, tout est fécondation in vitro, tout est eugénisme, on fait des alpha, des bêta, des gamma, tout ça, finalement, c'est le monde dans lequel la famille d'aujourd'hui vit. Alors, la solution, je dirais, c'est la clairvoyance. C'est la clairvoyance, c'est-à-dire voir un peu ce recul qu'ici, l'autre n'avait pas du tout. C'est comme ça, voilà. Et il nous faut un peu ce recul. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La chose, c'est est-ce qu'on accepte de se laisser transformer ? Parce que là, il faut vraiment se remettre en cause soi-même. Ça, on n'est pas toujours prêt à le faire. Remettre en cause dans ses pratiques, dans sa manière de penser par rapport à ce monde. Voilà. Alors, une troisième remarque, j'irai un peu plus vite pour la suivante. Une famille sans vigueur. Regardez Genèse, toujours, chapitre 19, verset 6. Il est écrit, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Alors ici, quand on lit ces mots, comme diraient les jeunes aujourd'hui, on hallucine. On hallucine parce que, bien, ici, c'est toute la démonstration du renoncement de l'autorité parentale qui est manifeste. Au nom du « on ne peut pas faire autrement ». C'est comme ça. Et on livre comme cela, bien, ses enfants au mal. On va éviter de faire le mal en faisant un autre mal. Et en fait, la remarque ici, c'est que on voit que Lot préfère renoncer que de se battre. Ça, c'est une caractéristique de notre temps aujourd'hui. Renoncer à se battre. Avec le christianisme, c'est un message guerrier ici. Dans le sens noble du terme, c'est qu'il identifie un ennemi, il nous invite à y faire face. Et rendez-vous compte d'être un père de famille, d'être à la porte, il y a toute une bande de scélérats qui est devant votre porte, et vous êtes prêt à livrer vos enfants, c'est très fort. Vous savez, ça c'est le conformisme mou de notre temps. Quelqu'un avait dit ceci, la société des hommes émasculés qui ont complètement perdu le sens de l'honneur. Voilà, c'est ça, chers amis. Il y a des fois, on devrait préférer mourir. Franchement, c'est mes enfants. Et là, on voit que, comme dirait l'expression, on est comme des homards dans la casserole, quoi. Et on n'est pas encore mort, mais en grande partie ramolli. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui où on renonce à se battre pour défendre son foyer. Une des raisons de notre renoncement, c'est que nous ne sommes plus prêts à souffrir. C'est ça un des problèmes, d'ailleurs, d'une manière générale, du christianisme en Occident. Nous n'avons intégré la souffrance, la frustration et le combat dans la matrice évangélique. Tu souffres et tu considères que c'est anormal. C'est tout à fait normal, puisqu'on est dans une bataille. C'est tout à fait normal. Vous souffrez, pourvu que ce ne soit pas pour le mal. C'est là l'exemple que Christ nous a laissé. Et il nous invite à suivre sa trace, pour motif de conscience, pour plaire à notre Dieu. Celui qui souffre avec lui règnera, dit-il, aussi avec lui. Alors c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est cette, se laisser aller, ce refus de prendre les choses, de se battre, je dirais, spirituellement parlant, pour ce que l'on croit. On ferme les yeux sur le mal qui nous atteint. Voilà. On l'intègre, mais on ne lutte pas. Et d'ailleurs, finalement, dans notre histoire, rien ne dit que les filles de Lot n'étaient pas prêtes à sortir avec ces types bizarres qui venaient frapper à la porte de leur père. Pourquoi ? Parce que finalement, dans l'histoire, dans la suite, on voit que ces filles n'avaient aucun sens moral, aucune foi et aucune crainte de Dieu. Ben, c'est fort ce que l'on voit ici. Le Seigneur dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, si vous voulez, c'est un des mots dans lequel souvent, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus prêts à combattre. C'est les compagnies. C'est là que le cheval de Troie va aussi pénétrer nos foyers. Ces deux filles, moi je les ai mariées. Je les ai mariées avec les deux fils d'Élie. Vous savez ? C'est très bien. Le Seigneur lui a dit, mais d'où vient que tu honores tes fils plus que moi ? Et je verrai bien ensemble. Bon.
Faites votre choix.
On ne peut pas faire autrement. Avec mon épouse, c'est un petit peu pour faire un peu fi de cette attitude que on a eu l'occasion à deux reprises de faire l'école à la maison. Non pas que ce soit la chose à faire pour tous ou quoi que ce soit, mais on voulait faire ça comme de bons Français en France, pas comme des Américains en France, mais pas facile, hein. Et dans notre esprit, notre intention, c'était de faire mieux qu'à l'école, sur le plan académique, moral et spirituel. Eh bien, ce fut une réussite académique, morale, spirituelle, mais familiale. Ça a été une réussite. Et vraiment, je me sens prêt à recommencer avec nos enfants et de ne pas me laisser prisonnier par ce « Ah bon, on peut pas faire autrement ». Ça, c'est la famille de Lot qui réagit comme cela. Et je vous invite vraiment à ne pas vous laisser embarquer par ce genre de considération. Dieu nous invite à relever le défi de la foi concernant chacun des projets et des détresses que nous pouvons connaître dans nos foyers. Je rends grâce à l'attitude de ma femme qui, vis-à-vis même du corps enseignant, eh bien, quand on lui propose des livres à nos enfants qui ne sont pas corrects, on dit non. Et les enseignants vont dire, ben oui, ben c'est au programme. Comme vous voulez. Et ça, c'est non. Eh bien, figurez-vous que, comme nous le faisons d'une bonne attitude, ben après, ils nous demandent conseil. Ah, très bien. Et même change. Vous savez, ça n'a pas besoin d'être une attitude, je dirais, conflictuelle, mais une position ferme et aussi positive, parce que nous essayons d'aider aussi dans l'école, aussi, quand nous sommes impliqués. Mais l'idée est de ne pas se laisser manger. Parce que il ne faut pas renoncer à nos droits sur l'enfance. Vous savez, c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui, hein, dans la situation de notre monde. Alors, j'aimerais aborder le dernier point, qui sera un petit peu déjà l'ébauche de la conclusion. Je vous ai déjà beaucoup retenu, je ne sais pas où j'en suis. Une famille sans transition. Regardez avec moi dans Genèse 19, verset 12. Il est écrit, « Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, et les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyé pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Alors ici, si vous voulez, c'est le clou de l'histoire. La preuve par neuf de la faillite familiale. Rien de spirituel n'a été transmis. Lot avait reçu un héritage formidable. Il était le neveu d'Abraham. Il suivait l'ami de Dieu dans ses pas, et il a quitté Ur en Chaldée. Il a pu entendre, partager, vraiment communier à la foi d'Abraham. Il a reçu ses enseignants. Bref, il a eu énormément de privilèges, cet homme. Et en fait, on voit qu'il n'a rien transmis à la génération suivante. Vous savez, c'est dramatique. Vous savez, quand on devient, je ne suis pas encore grand-parent, mais ça doit être dramatique de se dire, j'arrive, voilà, mes enfants et petits-enfants, c'est plus du tout cela. Il y a une rupture qui s'est faite. Rien n'a été transmis. La courroie de transmission, n'était pas là. La Bible dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. C'est une couronne. Il n'y a pas de couronne. Ses filles et ses gendres, le salut n'a pas été transmis. C'est maintenant trop tard. Lot paraît bluffé aux yeux de ses gendres. Est-ce qu'Abraham a paru bluffé quand il était avec son fils ? Non. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, à Morija, c'était la continuité de toute une vie construite, d'un dialogue, d'une communion sincère et... Donc il n'y avait pas de bluff possible. Mais là, bon, c'est pas ou quoi. C'était impossible de croire. Pourquoi ? Bien parce qu'il n'y avait pas d'intégrité dans sa vie. Et son manque d'intégrité va lui coûter l'éternité de ses enfants. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc on peut voir que les enfants, ce qu'ils jugent chez leurs parents, vous savez, c'est l'hypocrisie. Il y a une chose que ne supporte pas l'enfant, c'est ce qui fait d'ailleurs la crise d'adolescence. C'est quand on se rend compte que c'est un jeu. Ou que les parents jouent. C'est très fort. Hein. Peut-être y avait-il un jeu, là aussi. Mais la perte ne se limite pas à ses filles mariées, mais même à sa femme. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Le jour où il invite sa femme à faire enfin un pas avec Dieu, c'est le premier... Bien, c'est la fin de sa vie conjugale. Il nous compte. Perte sèche. Ces deux filles vierges qu'il a réussi à sauver. Regardez voir, chapitre 19, toujours au verset 30. Lot quitta Tsoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoa. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Ouf. Alors là... Lot est parvenu à sauver ses deux filles, il les a même préservées dans leur virginité, mais c'est pourtant elles qui vont donner une touche finale à ce tableau pathétique d'une famille en crise. La peur du célibat, la peur de ne pas avoir d'enfants, va les amener à faire quelque chose qui est immoral. Et regardez comme ça se produit beaucoup dans les foyers. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu tant que les circonstances sont porteuses. Mais changer les circonstances, il n'y a plus personne. Et combien de jeunes filles et de jeunes hommes, se sont ramassés, si je puis dire, et avec eux, leurs parents. Vous rendez-vous compte, pour Lot, il y a vraiment une fracture. Ces petits-enfants seront les pires ennemis du peuple de Dieu. Quelle catastrophe, chers amis, quelle catastrophe. Mais la Bible nous dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera pour l'esprit la vie éternelle. Alors voilà un peu notre personnage, sans ambition, sous influence, sans vigueur, sans transition. Vous pourriez dire, c'est le contexte difficile qui a traduit tout cela. C'est parce que la situation était c'était Sodome, hein, quand même. Mais s'il avait été ailleurs, les choses eussent été différentes. Alors c'est là qu'il est judicieux de se rappeler Adam et Ève. Adam et Ève avaient le contexte le plus favorable qui soit, pour le développement du foyer le plus estimable qui soit. Ils avaient un lieu paradisiaque, petit coin sur la Côte d'Azur, voilà, sur la maison là. Belle femme, bonne pointure à tous égards, conçue par Dieu. Une conscience qui n'était pas altérée par le péché, et qu'ont-ils fait? Ils ont tout gâché. Tout gâché. Comme quoi, ce n'est pas le contexte le problème, c'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est là ce terrain que nous avons besoin de circonscrire devant notre Dieu. Laissez-moi vous citer un dernier verset qui marquera la conclusion. Il se trouve dans Jean chapitre 12, versets 31 et 32. Je vais vous le lire avec un mot grec traduit en français. Maintenant a lieu la crise de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le jugement de ce monde, vous savez, littéralement, c'est la crise de ce monde. La vraie crise. Vous savez, ce dont nous avons parlé ce soir, c'est une crise finalement réelle, mais évitable, surmontable. Parce que la vraie crise, celle qui nous sauve, eh bien le Seigneur en est sorti vainqueur. Et il a chassé Satan. Il a eu la victoire sur notre adversaire, celui qui est le cheval de Troie, qui veut dépouiller, ruiner, détruire nos foyers. Alors ayons soif, eh bien, de tourner les regards vers lui. Il a été élevé pour être notre secours et notre victoire. Amen. Et je vous bénisse. Je vais laisser peut-être un de nos frères conclure, ou je ne sais pas.